Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 193. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Bien, bon solstice d'été, mes chers collègues.
Ah oui.
Nous approchons, nous sommes officiellement dans la saison estivale, même si pour Hollywood, ça fait 2 mois qu'on est là-dedans.
Puis si on veut être cynique, les journées raccourcissent à partir d'aujourd'hui, fait que c'est ça, c'est déprimant.
Ah, come on!
Effectivement. Puis on arrive à mi-chemin un peu de l'année. Ouais. Et là, c'est déjà l'heure de réfléchir à comme, OK, là, c'est quoi les bons films qui sont sortis depuis le début de l'année, tu sais? Puis ouais. On dirait que c'est une année un peu tranquille, il y a pas beaucoup de... Ben, évidemment, il y a tous les films de Cannes, c'est comme dans une autre case parce que à peu près personne ne les a vus, mais en dehors de Cannes, on dirait qu'il n'y a comme pas eu de gros films tellement. Mm-hmm. Et puis en plus, c'est la dernière année de la décennie, fait qu'il y a comme un double enjeu en ce moment, parce que là, j'imagine, surtout comme quelqu'un comme toi, Pascal, tu commences déjà à réfléchir un peu, c'est quoi mon top 10 de l'année, mais également, c'est mon top de la décennie.
Ma réflexion est dans des fichiers Word cachés dans mon ordi depuis longtemps et ça s'update au jour le jour. Là. J'ai une réflexion en continu là-dessus. Là.
Mais bref, donc, dans les derniers jours, on aurait eu la chance de voir quelques-uns des films peut-être qui forment un peu le haut du panier de ce début d'année.
Ouais.
Notamment, Pascal, toi, tu as vu High Life de Claire Denis.
Ouais. Il n'y a pas de nouvelles cinématographiques aujourd'hui. Il n'y a pas de bilan personnel. Il n'y a pas Il me semble que c'est frette sans lubrifiant, là, ton affaire, Paul.
En fait, je voulais juste comme. Ben, c'était plus dans le sens que, justement, moi, je me cherchais des films à écouter dans les derniers jours pour le podcast. Ouais. Et là, je vais vous parler d'un documentaire plus tard, mais j'essaie de voir un peu, justement, c'était quoi les films qui faisaient le consensus depuis le début de l'année.
Ouais.
Il n'y en a pas tellement. Il me semble que d'habitude, à cette étape-là de l'année, à chaque année, il y a comme quelques gros films. T'sais, je me rappelle, mettons, l'an dernier. J'avais déjà vu un film comme Annihilation, puis j'avais déjà vu comme, tu sais, quelques films que je me disais, OK, ça va probablement se retrouver dans mon top 10.
Ouais.
Je sais pas, tu sais, j'attendais beaucoup de The Beach Bum ou de Dead Don't Die, de Jim Jarmusch. Puis c'est pas des films vraiment qui ont levé tant que ça.
Non.
Ah, moi, j'ai pas grand chose, là, pour vrai. C'est.
Glass aussi, c'est un peu là. Sorti dans le beurre. Tu sais, il y a comme plusieurs films qu'on attendait, on dirait, qui ont pas vraiment. Fait en déloge.
Ben, tu sais, ça fait toujours un peu ça, je trouve, là. Parce qu'en fait, les bons films, ben justement, je vais parler de High Life, là. Spoiler, moi, j'ai beaucoup aimé ça, on va en parler. Mais tu sais, selon nos règles, tu sais, qu'on dit tout le temps un peu, là, parce que ça vaut la peine de le mentionner, il y a tout le temps des films qui tombent un peu dans des limbes entre deux années. High Life est un peu de ceux-ci, parce que techniquement, c'est un film, c'est un film qui a eu, il a tourné par exemple à TIFF en automne dernier, puis des festivals comme ça. Donc, techniquement, c'est un film de l'an passé. Mais tu sais, il y a des films qu'on reçoit tard, comme celui-là, où il y avait, ça avait vraiment beaucoup fait ça avec You Were Never Really Here de Lynn Ramsey. T'sais, pendant longtemps, dans ma tête, c'était un film de l'an passé, mais techniquement, c'était un film d'il y a 2 ans. Bon, bref.
Ou là, il y a Dogman qui vient de sortir en salle. T'sais, il était à Cannes l'an dernier.
Ça absolument. Fait
que le buzz est un peu retombé. J'ai pas vu le film, je suis sûr que c'est bon. Mais c'est un peu dommage de sortir comme ça. Ouais, face à Toy Story 4, que comme clairement, ça ne laisse pas grand chance, même si c'est pas
non,
le même public.
Non, c'est ça. Ben, inversement, t'sais, moi, je trouve ça vraiment bien. Puis c'est sûr qu'on est le public local pour ça. Donc, il y a une valeur ajoutée, mais que la femme de mon frère sorte à moins d'un mois de sa première cannoise, je trouve que c'est quasiment un signe de respect aussi pour les... Où, là, j'ai lu, par exemple, que Parasite de Bong Joon-ho est sorti domestique en Corée, a fait un succès monstre là-bas. Mm-hmm. Donc, tu sais, je pense que c'est de plus en plus comme ça qu'on que le buzz se bâtit. Tu sais, on est plus dans l'immédiateté. Je pense qu'on ne pourra jamais comme redoubler ou refaire le bon... Comment dire, la bonne première impression 2 fois, là, d'une certaine façon. Mm-hmm. Puis oui, effectivement, Dogman, tu viens exactement d'en dire un. Tu sais, Matteo Garrone, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Puis tout ça. Puis là, on dirait que le film, il tombe là. Puis on dirait que ça c'est indépendamment de sa qualité, mais on dirait que ça déprécie sa valeur. C'est comme, oui, Dogman, il vient de sortir maintenant, tu sais, 1 an. Trop tard, quasiment. Mais
c'est aussi, je peux ajouter, dans le cinéma populaire aussi, là, habituellement, il y a comme des gros films qui ont au moins un consensus critique. Là, thank God, il y a Toy Story 4 qui sort, mais, tu sais, sérieux, le top 7, là, je suis sur Rotten Tomatoes présentement, mm-hmm. là, avec les cotes Rotten Tomatoes, bon, ça vaut ce que ça vaut, là, on s'entend, mais reste que les 7 premiers films, il y a Rocketman qui est à 89%, sinon, il y a Men in Black à 23%, Secret Life of Pets 2, 57, Aladdin 57, Dark Phoenix 23, Shaft 31 et Godzilla 40. C'est des scores de marde, là. Tu sais, c'est, y a même pas le consensus critique sur les gros films.
Ouais.
On a comme pas cette balance-là. Habituellement, il y a au moins comme 2-3 blockbusters qui ont de l'allure.
Ouais. Il y a eu ces films, je pense. Je crois qu'un John Wick 3, c'est quand même été assez acclamé.
Ouais, mais on est fin juin, tu sais, l'été est à peine entamé que, tu sais, il y a pas encore, tu sais, John Wick puis Avengers, c'était peut-être les bons scores puis Toy Story, là, qui s'en vient, mais c'est ça, mais le reste, c'est risible, là.
Mais dans un sens, est-ce que c'est pas tant mieux que, tu sais, on dirait qu'à chaque année, on se dit, les suites, les gros films, c'est intouchable, puis le monde va toujours aller les voir, mais on dirait que cette année, il y a vraiment une espèce de sentiment d'épuisement pour plusieurs franchises, plusieurs films que, tu sais, Men in Black, là, qui c'est qui voulait vraiment voir ça? Puis la X-Men dans Phoenix, puis des trucs comme ça. Fait que, dans un sens, je trouve que c'est pas plus mauvais qu'on dirait que c'est comme la première année que le public se réveille. Non, c'est un peu condescendant ce que je dis, là. Mais il y a comme plusieurs gros films comme ça qui, malgré le budget, malgré les bandes annonces, malgré le marketing, ça n'a pas levé du tout.
Ouais.
Puis on dirait que les films qui ont vraiment été populaires dans l'année, c'est quand même des films qui ont du succès, qui sont bien faits.
Mais tu sais, inversement, mettons comme là un film qui a vraiment beaucoup rallié, un film qui, disons, à vocation populaire, bon, beaucoup plus indie que les films dont on vient de mentionner, mais un film comme Booksmart, par exemple, a des critiques, tu sais, dithyrambiques à tout partout. Puis un film comme ça n'a pas réussi à rallier un box-office, tu sais, substantiel. C'est un peu triste aussi, je trouve que c'est ça, là, on dirait que que ça ait aucune incidence finalement, là, tu sais, qu'un film soit à 30 sur Metacritic, tu sais, comme le pouvoir marketing est quand même fort, puis les gens vont quand même voir la petite franchise réchauffée. Encore une fois, je veux pas me mettre en opposition les gens versus nous, les cinéphiles vertueux versus, je sais pas, la plèbe. Mais je trouve ça quand même dommage quand une fois, de temps en temps, il y a des petites pépites comme ça qui devraient, tu sais, être des hits comme le bouche à oreille. Puis c'est qu'on dirait que c'est-tu moi où le bouche à oreille, il existe quasiment juste en télé, puis on va en parler un peu de télé, mais là, tu sais, ce que les gens ont envie de brander, mettons, sur leur compte, tu sais, Facebook ou Instagram ou whatever, c'est vraiment plus le phénomène culturel de société, là. Tu sais, le truc qu'on veut faire partie, là, c'est bien plus en télé. On dirait que le constat est d'autant plus frappant d'année après année. Là, c'est Tchernobyl all across the board, c'est Big Little Lies all across the board, tu sais. Puis regarde, on fait un podcast 100% cinéma, puis on va en parler de ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est pour dire, ça contamine tout, mais c'est parce que, tu sais, qui va vraiment dire, hey, j'ai vu Men in Black hier, oh my god, tu sais, c'était le. Tu sais, non, on dirait que plus personne fait ça. Je sais pas.
Ben, ça dépend si le film est bon, parce que. Parce que Men in Black, c'est ça, c'est pas un bon exemple, mais tu sais, Avengers, je veux dire, le discours de ce film-là était quand même assez incroyable.
Ouais, j'avoue.
Puis il y a un John Wick 3, j'en ai quand même beaucoup entendu parler.
Non, t'as raison.
Il y a comme une espèce de fanbase de plus en plus gros autour de la franchise John Wick.
Ouais. Ben, Keanu Reeves,
qui est un peu partout en ce moment.
Étant devenu un peu un meme, là, j'ai l'impression qu'il y a un peu pris le flambeau d'un Nicolas Cage là, à ce sujet.
C'est rendu plus le dieu du mime. Là, ben, Nicolas Cage, c'est comme le côté crazy, mais Keanu Reeves, c'est genre le côté, il y a une chaleur humaine. C'est ça que les gens aiment vraiment beaucoup. Là, justement, la scène à E3, quand il a présenté le trailer du jeu dans lequel il va figurer, là, Cyberpunk 2077, y a quelqu'un qui a crié You're breathtaking. Tu sais, c'est un peu le mot que tu mets sur Keanu Reeves, c'est breathtaking. Ouais.
Non, mais il y a aussi, il est drôle en maudit, là, il utilise ça tellement à son avantage. Il y a quelqu'un qui a demandé, genre, comment tu fais pour rester aussi terre à terre? Il dit, la gravité. Tu sais, des affaires comme ça, c'est comme. Ça le rend sympathique, puis ça a comme façonné. Parce que Keanu Reeves, là, c'est drôle, on en a parlé dans un autre podcast, mais Keanu Reeves, là, moi, je le trouve atrocement mauvais comme comédien. Genre, atrocement mauvais. Je comprends pas.
Non, mais c'est qu'il a trouvé sa niche, en fait. Il a trouvé là où il excelle et il compense son manque de talent par une éthique de travail incroyable.
Oui, j'imagine.
Est-ce que vous avez vu les John Wick, les gars, d'ailleurs?
Moi, j'ai vu le premier.
Ouais. Mais c'est vraiment rendu une franchise, en fait. C'est quasiment du cinéma, genre vidéoludique. Là. C'est vraiment la logique narrative d'un jeu vidéo, avec comme des boss, des niveaux, avec un scénario qui tient sur une napkin, qui est juste un prétexte à enchaîner
comme The Raid,
des niveaux. Ouais, c'est proche de The Raid, mais c'est encore plus... il y a vraiment de quoi être encore plus jeu vidéo, tu sais. Okay. C'est dur à expliquer sans vraiment rentrer dans, dans tous les spoilers puis de, dans le détail, là. Mais, tu sais, ça serait un bon papier, justement, tu sais, académique, là, d'analyser une scène de John Wick parce qu'il va se battre dans des endroits, puis là, comme, c'est comme si les objets autour de lui, c'était interactif, puis c'est comme si c'était un joueur qui découvrait un peu le niveau d'interaction des objets autour de lui. Mm-hmm. Puis en il va se battre dans une étable, il y a des chevaux qui sont, qui sont là. Et il se bat contre des vilains, les vilains qui sont tous un peu génériques puis oubliables, et puis les deux se battent près d'un cheval, et puis là John Wick va juste donner un coup de poing au coup de poing au cheval qui va donner un double coup de pied par en arrière qui va comme tuer le méchant, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, ce genre de scène là, je suis comme, on est vraiment dans une logique de comme cutscene, puis d'interaction rapide, puis tu sais, de le voir ensuite comme dans l'actualité dans Cyberpunk, j'étais comme, man, Cyberpunk, on dirait le prolongement de John Wick, tu sais, dans le futur. Mm-hmm. Parce qu'en plus, tu sais, c'est une espèce de James Bond à n'en plus finir, qui se fait blesser, qui se relève. Là, il s'en va voir un médecin qui lui donne un peu, tu sais, 2-3 points de suture, 2-3 pilules, parfait.
Ouais, genre,
tu remets à courir.
Il gagne des points de vie, là. Ouais, c'est ça.
Mais à quel point tu peux rebrander ton acting, que tu peux revenir, retomber dans une franchise après t'être effacé, tu sais, il y a comme Matrix, c'était en 99, là, c'est comme 15 ans plus tard, tu reviens en force, puis t'as un autre gros succès, puis une autre franchise de 3 films. Puis là, contrairement à Matrix, t'as un, tu sais, Matrix avait un bon film, puis 2 films assez médiocres, ben, ou moyens, mettons, là. Mm-hmm. Mais là, tu tombes avec John Wick, puis les critiques sont folles pour les 3. Mm. Moi, j'ai vu juste le premier, là, puis c'est pas par manque d'intérêt, plus par manque de temps, là, ça s'est jamais casé dans ma watchlist, mais moi, j'ai adoré le premier. Puis comme tu dis, Paul, tu choisis un lieu vraiment cool, tu choisis des armes vraiment cool, puis là tu mets ça dans un blender, puis ça te fait une scène d'action incroyable.
Puis je pense que
puis il fait ses castés, il se bat pour vrai, il fait ses stunts, ben pas toutes là, mais il fait beaucoup de ses stunts. Puis c'est ça qui est remarquable aussi, parce que tout le long de sa carrière, c'est perfectionnant dans martiaux. Puis depuis Matrix, il a fait d'autres films dans une lignée où il allait se battre avec des arts martiaux, mais là, il est mis à profit pour cette franchise-là, puis c'est pour ça, là, il est authentique, Kenny Reeves, là.
Puis dans un sens, tu sais, le fait qu'on va dire qu'il ne joue pas si bien que ça, ou qu'il est un peu fade, mais c'est comme une page blanche pour que le spectateur s'identifie puis se projette, comme un personnage de jeu vidéo qui souvent sont muets, en fait. Ouais, c'est un principe d'avoir un avatar qui peut être à peu près n'importe qui. Donc, ouais, est-ce que Keanu Reeves, le premier grand acteur vidéoludique, je sais pas, ça pourrait être un projet d'article.
Ouais, parce c'est vrai que là où on comparait avec Nicolas Cage, c'est que Nicolas Cage est bien trop iconoclaste, il est bien, tu sais, effectivement, Nicolas Cage ne pourra jamais être cette espèce de canevas plutôt neutre. Tu sais, dont tu parles là, par rapport à Keanu Reeves, tu sais, je veux dire, Nicolas Cage, on le regarde, il y a une partie du plaisir qu'on fait de le regarder, c'est de voir la prochaine couche, comment il va la péter, puis comme quand est-ce qu'il va se crinquer à 11, puis que ça va juste exploser à l'écran, tu sais, versus effectivement Keanu Reeves, on n'est pas nécessairement là-dedans, là.
Mais tu sais, sa carrière remonte à loin avec Speed en 94, c'est, tout le monde s'en souvient, puis c'est tellement iconique comme film. Il y a vraiment comme un renouveau tout le temps, mais effectivement, il a comme trouvé le canevas du gars de film d'action un peu blank. Je pense que la dernière fois qu'il y a eu une expression faciale, c'est peut-être dans Bill & Ted 2 en 91, là, tu sais, mais en plus, ils vont faire un 3, je sais pas si vous avez vu ça, là. Mais il y a un Bill & Ted 3 qui s'en vient comme 30 ans plus tard, puis avec Keanu Reeves puis Alex Winter, puis c'est comme, ils sont rendus vieux, puis ils ont chacun une fille. En tout cas, suivre.
on en parle, puis ça devient de plus en plus évident que ça prend un film avec Keanu Reeves et Nicolas Cage. T'sais, Nicolas Cage comme méchant, Keanu Reeves comme gentil.
Ah, mais un Face Off 2, là, tu sais.
Ouais, Face Off 2, là. Moi, je paierais pour voir ça. Bon, OK, on va parler de Claire Denis.
Oui, c'est ça que c'est bon,
on a eu un peu, on a eu notre warm-up maintenant. C'est bon, on peut aller dans un peu de substance.
C'est ça, donc on rattrape quelques-uns des plus gros films de l'année ou des plus acclamés.
Ouais.
Et toi, Pascal, donc, tu as eu la chance de voir Highlight de Claire Denis, qui est maintenant disponible en location sur demande.
Oui, de cette façon-là.
Donc, c'est Claire Denis dans l'espace avec Batman.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. Dieu. Première question, est-ce que Robert Pattinson va faire un bon Batman?
Il y a la bonne mâchoire pour. Ouais, je sais pas quoi dire de plus.
Non, j'éconne.
Non, mais avant de parler de High Life et de l'attaquer plus ce film-là de front, je trouve que Claire Denis, c'est une cinéaste, tu sais, comme, je pense que c'est assez évident qu'elle est respectée, qu'elle a une carrière vénérable rendue là, tu sais, c'est quand même là, elle est rendue à 73 ans, mais elle a commencé sa carrière sur le tard, puis en fait, c'est ça que je veux parler, c'est justement de son parcours de vie, parce que je trouve que c'est indissociable des sujets qu'elle aborde, de la façon comment qu'elle les aborde. Bon, High Life est un peu à part, parce que là, on est dans de la science-fiction un peu kubrickienne ou tarkovskienne. Là, on est vraiment dans un film qui frôle l'abstraction en ce sens. Mais tu sais, Claire Denis, déjà, un des thèmes récurrents de son œuvre, c'est vraiment un peu les mots du colonialisme, ça, c'est définitivement. Mais j'ai su tout récemment qu'en fait, elle est née à Paris, mais elle a grandi, elle a passé toute sa jeunesse, la première partie de sa vie dans des pays d'Afrique là, comme le Cameroun, la Burkina Faso, le Djibouti, tout ça. Puis elle a toujours été dans des écoles mixtes. Donc lorsque, par exemple, dans Beau Travail, elle parle des légionnaires, tu sais, mais qu'elle prend aussi un peu le point de vue des femmes, puis que les légionnaires sont dans des bars, puis qu'ils crousent, tu sais, les femmes africaines d'une façon un peu prédateur. On comprend d'autant plus son regard et vient de où, tu sais, quand on sait qu'elle a effectivement grandi en Afrique, notamment. Puis elle a fait plein d'affaires avant de faire du cinéma. Son premier long métrage est en 88, elle avait déjà une jeune quarantaine. Fait que c'est pour vous dire, elle a commis des vies avant ça. Elle a travaillé en cinéma, mais comme assistante à la réalisation, notamment. Puis elle a travaillé sur, par exemple, Paris, Texas, puis Les ailes du désir de Wim Wenders. Puis genre Down by Law de Jim Jarmusch. Fait qu'avant même de faire des films, elle avait collaboré avec des cinéastes contemporains, tu sais, franchement intéressant. Et puis là, elle part sa carrière fin des années 80. Je pense que le film dont peut-être son chef-d'œuvre, si j'ose dire, c'est probablement Beau Travail en 99, avec ton préféré, Paul, Denis Lavant. Mais l'avez-vous vu, ce film-là? Parce que...
Moi, je suis complètement néophyte à Claire Denis, fait que je suis tout oui, Pascal. Apprends-moi des choses.
C'est l'une des plus belles fins du cinéma aussi.
Oh my God, oui. Est-ce que tu savais entendre Rhythm of the Night de Corona de la même façon?
Un petit trivia, est-ce que, en restant vague, là, mais est-ce que tu savais que la scène finale, à la base, ce n'était pas celle-là, Pascal? Tu connais un peu cette histoire-là?
Ben, dans Beau Travail?
Ouais.
Restons vagues, parce que c'est une des fins qui m'a, moi, en tant que cinéaste, le plus marqué ever. Il y a peut-être la fin des Nuits de Cabiria, la fin de Beau Travail, puis la fin de Le goût de la cerise de Kiarostami. C'est comme les trois grandes fins là, qui m'ont toujours resté en tête. Ouais.
À la base, en fond, il y a vraiment deux scènes, une après l'autre, qui sont assez iconiques, puis qui viennent clore le film. Mais à la base, c'était l'ordre inverse. Et là, Claire Denis travaillait au montage, puis elle était comme, quoi qui marche pas, tout ça. Et elle a décidé de les inverser pour le mettre dans l'ordre qu'on connaît maintenant. Et un peu quasiment comme à la toute fin, comme une espèce de... Genre, on va essayer ça pour le fun. Et puis maintenant, voilà, on a comme l'une des plus belles conclusions du cinéma.
Ben, complètement, tu sais. Je sais pas si vous... Ben, écoute, moi, ça m'a tellement habité, cette fin-là. Tu sais, je veux dire, j'avais réalisé un court-métrage, j'étais en 2012, Baby Blues, là. Tu vas rappeler tous de ce film. Il est en ligne, là, si jamais vous écoutez le podcast puis vous êtes curieux de voir le back catalogue de vos humbles serviteurs. Mais j'étais jamais satisfait de la fin. J'étais jamais satisfait de la fin. Puis à un moment donné, comme on a juste mis, genre, Girls Just Wanna Have Fun, avec des images qui filaient, qui étaient carrément en fait des images qu'on avait captées pour avoir les scènes qu'on voulait. C'était juste la comédienne avec l'enfant qui s'amusait, puis qui dansait, puis qui lâchait leur fou, qui était même pas narratif dans le récit. Puis là, ça a comme conféré une genre de couche métaphorique au truc. Puis ça m'a tellement sauvé la vie. Pas pour comparer, je pense vraiment pas qu'on est au même niveau de maîtrise, là, mon court-métrage de 2012 versus Beau Travail. Mm-hmm. Mais
des fois, ça, c'est que la part du hasard, puis la part de... Tu sais, ce qui se fait pendant la création, des fois, ça peut être aussi important que ce qu'on a planifié depuis le début.
Ouais, c'est ça. Bon, fait qu'on est resté vraiment méga vague. Mais c'est ça. Puis là, elle a fait Beau Travail. Puis c'est quoi son style, Claire Denis? Tu sais, on est beaucoup dans... C'est beaucoup moins à propos de l'histoire qu'à propos de... C'est un mood, là, c'est une atmosphère, ça, définitivement. Il y a un total jeu au niveau de la temporalité, des ellipses, des retours en arrière. On est, oui, dans du cinéma, comme je disais encore, atmosphérique, mais il y a toujours quelques scènes, puis c'est une question de dosage, puis c'est ça qui est maîtrisé chez elle. Il y a toujours quelques scènes qui pop, là, tu sais. On n'est pas juste dans l'espèce de film un peu endormant ou hypnotique qui reste sur cette couche-là de A à Z. Des fois, on a comme ces espèces de scènes feu d'artifice qui nous prennent à la gorge d'un coup, tu sais. Puis c'est ce montagne russe là entre le côté hypnotique puis le côté comme raw là, tu sais, qui gueulard un peu, qui peut faire de son cinéma quelque chose de vraiment super vibrant. Puis ensuite, elle a fait un film, 35 Roms, qui est peut-être son plus réaliste, justement avec Mati Diop, j'en parlais le dernier podcast. Ensuite, elle a fait White Material, un retour avec Isabelle Huppert, un retour en Afrique, encore une fois, beaucoup de colonialisme et tout ça. Et là, elle fait une comédie, Out of the Blue, avec Juliette Binoche, dans le film Un beau grand soleil intérieur. J'en ai pas parlé au podcast, je l'avais vu dans l'avion et j'avais beaucoup aimé. Mais tu sais, on frôle la légèreté au point de peut-être en devenir une œuvre mineure, là, pas que j'amoindrise la comédie, mais c'est vraiment pas ça, mais tu sais, c'est comme, c'est un film léger, puis c'est bien parfait. Et là, elle arrive avec High Life, une science-fiction, Out of the Blue. Et c'est pas un hasard, Out of the Blue, parce que c'est des couleurs, ma foi, c'est des bleus, c'est des rouges, c'est
bien
des...
joué. Tout
est... Ouais, c'est ça, on est vraiment dans... Mais dans un production design, dans une direction artistique très minimaliste, en fait. Puis moi, je trouve ça hyper inspirant, des films de science-fiction... Qui sont un peu à la portée, tu sais, des fois d'un budget plus réaliste que genre Elysium ou genre ou whatever, quel film de 150 millions de budget américain existe. Là.
Parce que là, on est plus proche de Solaris. Là.
Oui, on est plus proche de Solaris. On est plus proche de même un film comme Moon, peut-être, de Duncan Jones, qui était quand même super. Là. Moi, j'ai une autre science-fiction très inventive. Mais là, on est vraiment dans un récit hyper abstrait. Moi, juste comme après avoir visionné le film, j'étais un peu subjugué par toutes ces qualités formelles, mais il y avait une grosse partie de moi qui me demandait « Coudonc, je suis moron? » Comme j'ai vraiment... C'est un peu insaisissable, le film. J'ai vraiment pas saisi beaucoup de pivots dramatiques, narratifs, parce que le temps se perd, le temps s'égare. C'est quoi le synopsis de ce film-là? Bon, j'ai fait un long préambule, sorry guys. High Life de Claire Denis, on suit des condamnés à mort dans une mission suicide d'un vaisseau qui avance à 99% de la vitesse de la lumière pour aller extraire possiblement une énergie renouvelable à même un trou noir. Bon, OK. C'est à peu près le topo. Mais maintenant, c'est ça. Là, tu sais, le film commence, la moitié de l'équipage est déjà mort. On se demande un peu comme... What's up avec tout ça? Il y a Robert Pattinson qui erre dans une espèce de bateau maudit, OK? Bon, on revient clairement en arrière. Il y a un capitaine de ce bateau-là. Le capitaine meurt d'une façon assez mystérieuse. La scientifique incarnée par Juliette Binoche, un grand rôle d'ailleurs, devient un peu l'espèce de leader de cette espèce de... C'est ça, là, cet équipage maudit-là, puis ça devient un genre de Lord of the Flies, mais hyper abstrait dans l'espace. Voilà. C'est peut-être le topo que j'en ferai. Il y a une machine qui s'appelle The Box, qui est comme une genre de machine à masturbation en 3 VR, 3D, ultra, je sais pas quoi. Et il y a des scènes là-dedans qui sont mémorables, dont une avec Juliette Binoche. Oh my God.
Ça c'est, vraiment, ça, c'est vraiment l'aspect du film qui a tellement... fait couler d'encre lors de la sortie, parce que notamment auprès des critiques américains qui sont peut-être un peu
plus crudes, peut-être.
Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle qu'il y avait eu un peu beaucoup de discussions là-dessus, en fait, sur la pas nécessairement la pertinence, mais sur le fait qu'est-ce qu'elle va trop loin, est-ce que c'est comme nécessaire.
Non. Puis... Moi, je pense qu'il faut que ça aille loin, parce que c'est comme je disais tantôt, puis c'est un peu ça qui fait que Beau Travail est autant un film génial à mon œil. C'est ça, c'est qu'on peut passer à qui mieux d'un film, j'allais dire endormant, mais mettons au sens le plus positif du terme, tu sais, un genre de film mi-rêve, mi-éveillé, puis là, tout à coup, bang, t'as comme, c'est ça, la scène dans The Box, que c'est comme, oh my God, oh my God. Il y a, par exemple, des fois, des pointes de violence, comme quand, justement, l'équipage commence de plus en plus à se revirer les uns contre les autres. Il y a des scènes de violence, d'une violence insoutenable, ou presque. Donc... Moi, je trouve que c'est... Non, il faut que ça aille loin. Il faut que ça aille loin, parce que le film se brasse sa propre cage, puis c'est comme... C'est ça qui le rend vivant, ultimement. Non, moi, vraiment, j'ai beaucoup de bons mots, mais c'est le genre de film, comme encore une fois, que j'ai dit, en lisant le synopsis plus détaillé par la suite, j'ai fait « Ah, OK, c'est ça qui est arrivé à tel personnage », parce que il y a des gros pivots qui sont tellement elliptiques ou tellement peu mis en relief que ça en devient complètement...
C'est un film qui exige l'attention du spectateur.
Ah ben également. Oui. Puis à des moments où il n'y a pas de lumière flash qui dit ça c'est important ou ça c'est un pivot. Là. C'est comme à un moment donné, tel personnage est mort. Puis là, t'es comme ah oui, pourquoi il est mort ce personnage-là? Puis mais c'est correct, je dis ça c'est de façon hyper positive.
Parce que j'imagine que c'est une façon aussi de réfléchir un peu à comme le sens du temps, tu sais, puis comme là tu fais des références à un capitaine, à un bateau, à un vaisseau, puis ça, puis ce sentiment, tu sais, quand on est tous pognés dans une espèce de truc comme ça 24 heures sur 24,
ben oui, c'est ça,
un gros projet comme ça, là soudainement, tu sais, les mémoires, ça devient tout se mélange un peu, puis on sait plus trop on est quel jour, des trucs comme ça, donc j'imagine que la forme du film vient un peu rejoindre des questionnements. Puis des...
Ouais, c'est ça, un peu l'espèce d'amnésie, le cycle infini qui finalement finit par se mélanger l'un dans l'autre. Puis ouais, c'est ça, ça joue beaucoup plus comme une impression, de façon impressionniste ou de plus lié comme à l'ordre de la mémoire que linéaire. Bon, bref. moi, donc, j'en sors hyper positif. Je pense qu'il y a quand même la seule mise en garde que j'en ferais, c'est qu'il faut quand même l'écouter avec son plein cerveau, là, tu sais, commencez pas ça à 10h30 le soir entre deux épisodes de The Office, là,
tu sais. Ah ouais, c'est ça, tu gardes pas ton cellulaire à côté parce que tu risques de décrocher un peu.
Ben, c'est ça.
J'aurais aimé ça qu'on publie une critique, tu sais, puis là, c'est comme, ne commencez pas ça à 10h30 le soir entre deux épisodes de The Office,
avoir avec une petite tisane puis une petite couverture puis lumière tamisée, là.
Puis disposer à
le Wi-Fi débranché.
Non, mais parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup, sans trop en révéler, mais à un moment donné, il y a comme des genres de doppelganger du vaisseau dans l'espace avec des chiens. En tout cas, je vais rester le plus vague possible, là. Mais genre, tu sais, ça, on est vraiment dans du symbolisme fort. En tout cas, il y a beaucoup à dire aussi au niveau de l'interprétation qu'on peut en faire. Donc oui, il faut avoir son radar ouvert. Hein.
Puis au final, est-ce que ça serait peut-être pas le dernier rempart du cinéma versus la télévision qui se veut un médium beaucoup plus qui nous invite en fait à binger puis à comme écouter le plus vite possible puis à tout prendre d'un coup, tu sais. Est-ce que le cinéma justement ce n'est pas la seule différence qui reste, ça ne serait pas justement ce niveau d'attention requis, ce temps de réflexion, tu sais. Moi, il n'y a rien que j'aille plus là, que d'écouter un film sur Netflix puis là soudainement t'es comme ok, next épisode ou next truc qui commence en 10 secondes 9,
hey,
8, 7 là t'es comme
hey,
je peux-tu écouter le générique puis genre réfléchir un peu là.
C'est tellement frustrant, là, ça n'a pas de sens. T'essaies juste de sink in. J'ai regardé cette semaine, petite parenthèse, j'ai regardé la première fois Lost in Translation. C'était comme dans ma watchlist depuis longtemps.
Ah, tu l'avais jamais vu?
Non, c'est ça, je l'avais jamais vu.
Sophie Coppola,
j'avais un film que j'avais beaucoup aimé, les Virgin Suicide, puis un film que j'avais détesté au plus haut point de Bling Ring.
Puis
finalement, Lost in Translation s'est effectivement perdu dans... tu sais, j'ai jamais eu le temps d'y venir, là. Bref, j'ai vraiment aimé ça, mais tu sais, j'ai regardé sur Netflix.
Ça aussi, c'est une des plus belles fins de cinéma, je trouve, d'ailleurs.
Mais tu vois, ça fait... Tu sais, je connaissais déjà un peu la fin, là. Je savais un peu, c'est comme un peu aujourd'hui regarder
c'est
sixième
un classique
sens,
moderne.
Puis dire, genre, ok, mais je le sais que Bruce Willis il est mort là, tu sais.
Spoilers,
déjà, c'est des enfants qui sont
pas. Like,
oh my God!
Divulgation.
Non mais bref, tu sais, le film finit puis c'est une fin comme ultra dramatique. Puis là, je suis assis sur le divan puis les génériques commencent. Puis là, l'écran réduit, puis là, il y a le compteur 15 secondes.
Ben oui.
Et là, il y a comme de la musique. Tu sais, je veux juste comme prendre le temps de respirer après le film. Pour
là,
le,
tu cherches ta manette, t'es comme, voyons,
c'est exactement ça, je deviens super stressé. Je cherche ma manette, puis c'est genre, tu sais, c'est comme dans 15 secondes, il y a un sitcom vraiment à la con qui commence.
Le nouveau film d'Adam Sandler et Jennifer Aniston.
Ben, c'est ça, là. Je veux juste écouter la musique pour comme laisser le film me pénétrer comme il faut, là, tu sais. Finir l'acte, là, fumer ma petite cigarette après l'amour, là, tu sais, comme juste comme être confortable. Puis là, je suis juste stressé, je cours dans le salon pour essayer de trouver ma manette, là. C'est ridicule, là.
J'ai juste une option dans mon compte que je peux enlever le Next automatique, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Puis si 99% des utilisateurs l'utilisent, c'est correct, c'est cool, mais genre, je veux juste, moi, pouvoir le désactiver.
Avoir le choix, là.
C'est même que je cherchais comment retourner au générique, tu sais. Je voulais regarder le générique. Puis je cherchais parce que c'est vraiment pas évident, là. Il devient comme un petit carré, puis là, t'as plein d'options, puis En tout cas, je sonne peut-être pépère là, à dire ça, là, mais je fais juste comme... Laisse-moi le temps, là, Netflix, le fuck you.
À l'époque, ouais. quand on avait une VHS, là, ça continuait, puis après ça, il fallait rembobiner.
Ouais.
Oui, grand-père, tu l'as déjà compté plusieurs fois à cette anecdote-là.
Monsieur sénile.
Bon.
Ben, en tout cas, fait que, ben, tout ça pour dire que oui, ben, peut-être. Puis, tu sais, c'est comme tu disais un peu, je pense que le cinéma peut oser peut-être l'abstraction d'une façon que la télé l'ose moins. Mais ceci dit, selon d'ailleurs Jim Jarmusch, hein, le plus grand cinéma qui s'est fait de la décennie aux États-Unis, ce serait Twin Peaks The Return. Puis donc, qu'on dit oui, c'est de la télé. Donc,
mais est-ce que c'est quoi l'exception qui confirme la règle?
Oui, c'est peut-être. Oui, c'est... oui, Lynch est probablement l'exception.
Puis d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de succès, le retour de Twin Peaks comparé aux deux premières, puis comparé à plein d'autres séries actuelles. En ce moment. Donc,
oui, mais ça va se tailler une place de choix si c'est culte déjà.
Oui,
je veux dire.
Mais ça reste une anomalie comme l'était, mettons, le Décalogue, comme l'était d'autres trucs. Je veux
oui,
dire,
absolument, absolument, absolument.
C'est des blips qui viennent un peu. Ça, en statistique, on dit des données éloignées là, qu'on évacue pour faire des moyennes qui ont de l'allure.
Ouais.
Allez, les gars, je voulais vous parler d'un documentaire absolument fascinant que j'ai eu la chance de voir et qui est disponible en location sur les plateformes sur demande. Je crois pas qu'il est sorti en salle ici à Montréal, qui a été d'ailleurs un bon film peut-être pour Fantasia, mais bon. Framing, en fait, dès que je vais vous dire le nom de la personne et le nom du titre, vous allez déjà avoir plein d'images en tête. Framing John DeLorean.
OK.
Et DeLorean, évidemment, on le connaît, l'inventeur donc de la voiture, compagnie DeLorean. Et je pense que n'importe quel cinéphile est un peu familier avec cette voiture-là qui est devenue, on peut dire, tu sais, on dit un film culte, on peut dire une auto culte un peu.
Ouais.
Notamment par son rôle dans Back to the Future. C'est également dans Ready Player One, dans le livre et dans le film, il y a une place importante. Et l'auteur du livre, d'ailleurs, a une des deux seules DeLorean utilisées dans Back to the Future, pour l'anecdote. Donc, mais cet homme, en fait, qui est-il, John DeLorean? C'est vraiment un personnage, c'est une vraie personne qui existait, mythique, tout à fait hollywoodienne, un personnage plus grand que nature, un vrai playboy d'Hollywood, là, comme on en fait très, très peu. Et donc, sa vie est comparable à celle d'un John Hughes, par exemple, ou d'un... Frank Abagnale Jr. Qui a donné le film Catch Me If You Can de Spielberg. Un espèce d'homme qui a pris beaucoup de risques.
Tu as dit John Hughes, mais tu voulais peut-être dire Howard Hughes.
Howard Hughes, oui, pardon.
Non, c'est correct.
C'est un petit peu différent, mais c'est pas grave.
C'est pas sa vie, j'imagine.
Non, c'est bon. Ça. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est inventeur slash ingénieur plus grand que nature. Et qui a pas nécessairement, un peu comme un Steve Jobs, c'est pas nécessairement qu'il a les chops techniques, mais il a un excellent sens du marketing, puisque ce que le public veut. Et donc, c'est un documentaire sur sa vie, mais à l'image de sa vie, qui est absolument fascinante et pleine de contradictions, c'est pas un documentaire classique. Et d'ailleurs, le titre « Framing John DeLorean » donne un peu déjà des pistes de lecture, parce que dès l'ouverture, en fait, on passe en entrevue plusieurs producteurs et scénaristes qui étaient attachés à des adaptations et à des documentaires sur John DeLorean. Et ces documentaires et fictions, il y en a eu genre une dizaine en préparation au minimum depuis les années 80, sans qu'aucune ne voie le jour. Pour plein de raisons, évidemment. Et là, on se demande comment, en fait, parler d'un homme aussi grandiose, aussi, et qui a eu un impact vraiment dans l'histoire populaire, tu sais, parce que c'est pas... On raconte une histoire qu'on connaît déjà un peu tous, tu sais. Et le film, donc, accumule les entrevues, les images d'archives, les photos d'époque, les faits, avec des reconstitutions vraiment quand même bien faites, mais également le making-of de ces reconstitutions et une espèce de méta-commentaire de l'équipe du tournage. Donc, c'est assez complexe, mais on est face un peu à une structure qui rappelle un peu des expérimentations d'Errol Morris, qui veulent aussi un peu signifier, tu sais, à l'image justement d'un Charles Foster Kane, de Stephen Kane, tu sais, c'est comme, on peut pas vraiment saisir l'essence d'un homme dans un film, tu sais, puis dans un documentaire. Et donc, l'acteur Alec Baldwin va interpréter John DeLorean dans des mises en scène, mais on va également être présent avec Alec Baldwin qui se fait maquiller, qui regarde des images d'archives pour essayer de comprendre. Donc, ça fait un documentaire qui est comme vraiment fascinant, qui va au-delà de sa vie et qui qui interroge le médium même.
Il y en avait un, ça me fait penser à Vinay un peu. Je sais pas si tu avais vu Casting John Bennett, là, le film qui est sur John Bennett.
Ah, c'est fou ça!
J'avais bien aimé, j'avais quand même des petits bémols par rapport à ça, mais c'est surtout la forme était super intéressante dans Casting John Bennett. Là. Mm-hmm. C'était comme. C'était sur. John Bennett Ramsey qui avait été assassiné. Ben, c'est encore un mystère, on imagine.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, effectivement.
Mais tu sais, c'était la petite
Beauty Queen. Mais c'est un true crime très connu. Là.
Ouais, c'est ça, exactement, là, qui a été assassiné. Là. Puis, c'est ça. Puis là, en castant plein de jeunes filles, puis en parlant du rôle, puis de la reconstitution, parents-enfants, tu sais, finalement, on recrée l'histoire, mais un peu comme un genre de murder mystery, un peu Dogville-esque, là, parce que c'est comme quasiment tout dans des studios de casting, là, tu sais.
Ben, c'est à propos de la vision, en fait, de chaque individu, les gens, comment ils ont perçu l'histoire, comment ils vont interpréter différemment la scène.
Ouais, absolument.
Donc, tu sais que pendant le casting, t'as plusieurs personnes qui vont jouer le père. Ben, ils vont chacun faire la même scène, mais avec des intentions complètement différentes.
Exact, c'est ça.
Parce qu'ils ont interprété l'histoire à leur façon. Fait que c'est quasiment plus sur le regard des gens au murder mystery. Ben, je dis murder mystery parce que, en tout cas, pas ça, là, true crime, là,
on va le dire de même.
Mais c'est ça, fait que c'est plus sur la vision des gens sur des vrais meurtres que sur le meurtre lui-même. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment intéressant.
Ouais, puis c'est à peu près le même type de démarche ici. Puis effectivement, comme dans un Citizen Kane où. C'est une fiction, mais tu sais, qu'il interrogeait sa famille, ses amis, ses collègues pour essayer de capter l'essence de cet homme et de comprendre le mystère de sa vie. Là, on est un peu dans le même truc parce que si vous n'êtes pas familier, en fait, avec sa vie personnelle à John DeLorean, je vous conseille de rester vague et de louer le film. Parce que, bon, je connaissais évidemment la voiture, mais pas vraiment, en fait, tout le contexte, parce que, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est que DeLorean, c'était une compagnie très brève, mais c'est quand même une espèce de truc sans précédent, tu sais, une nouvelle compagnie comme ça, qui est formée de nulle part, puis qui réussit à sortir un modèle, c'est ça. C'est pour ça aussi que les parallèles avec Steve Jobs sont assez faciles à faire. L'espèce de jeune David qui voulait affronter Goliath, l'industrie de l'automobile, parce que lui, en fait, il a fait ses preuves à l'intérieur de General Motors en vraiment revigorant la branche Pontiac, qui était à l'époque perçue comme pour les mères et les personnes âgées. Et puis, il a sorti un modèle GTO qui est comme devenu un peu le gros modèle de ces années-là auprès des jeunes.
Mm-hmm.
Donc, il a réussi quand même plusieurs faits d'armes. Mais DeLorean, pour plein de raisons sont explorées dans le film, n'aura fait qu'un seul modèle avant de vraiment faire faillite. Et puis, c'est seulement... parce qu'il y a plein de choix que cette personne-là a fait dans sa vie. DeLorean, qui font que sa compagnie a fait faillite. Et on se rend compte que c'est pas tous des choix éthiques et légaux, nécessairement.
Mm-hmm.
Et dans le film, on interroge notamment son fils et sa fille, parce que DeLorean est mort depuis longtemps. Mais il a donc deux enfants qui l'ont survécu et qui ont été touchés de plusieurs façons, en fait, par leur père. Et pas tous de manière positive, parce qu'évidemment, il y a la légende, il y a le personnage, mais...
Ils ont été touchés
par leur père. Tant que c'est pas au
sens
littéral.
Attention aux mots que tu utilises, Paul.
Ils ont affecté, je
sais pas. OK, c'est bon, merci.
Ils ont été affectés, il n'y a pas d'histoire de crime sexuel là-dedans.
Leaving DeLorean.
Exactement, non, on n'est pas là-dedans. Mais c'est ça, il y a ce côté un peu d'espèce de père génie absent aussi, là, tu sais, qui est comme pas tellement un bon père, puis qui a la misère un peu à se défaire de son personnage ultra connu, plus grand que nature. Là. Un peu comme Steve Jobs, d'ailleurs, qui n'a pas nécessairement été le meilleur père pour ceux qui ont pu lire sur le sujet.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Ça en fait un film qui est fascinant. Mais par contre, c'est pas nécessairement... attendez-vous pas à avoir vraiment beaucoup d'histoires sur Back to the Future. Ça vient un peu en fin de film parce que Back to the Future est sorti après que la compagnie ait déjà fait faillite. Et là, évidemment, c'est le grand regret parce qu'il n'était pas tout seul hein, pour construire une usine et mettre sur pied un nouveau modèle. Il a fait affaire avec des dizaines de techniciens, d'ingénieurs, et c'est une grosse machine, ça. Et donc, tu sais, les personnes qui sont toujours vivantes et qui sont interrogées, tu sais, c'est comme si seulement on avait réussi à rester là 2 ans de plus, t'sais. Parce que là, c'est comme Back to the Future, puis soudainement, c'était comme...
Ça crée
vraiment une culture. Et maintenant, il y a même des festivals, tu sais, ou des gros défilés de DeLorean qui existent. Ouais. Donc, c'est vraiment comme... sais, quel autre modèle on peut dire ça? Il y en a très peu. Il y a plein de modèles mythiques dans l'histoire de l'automobile, mais DeLorean a clairement sa place dans l'histoire pour les amoureux de bolides. Et c'est un film vraiment, même au-delà des enthousiasmes de l'automobile, c'est un film qui est intéressant pour les cinéphiles, ne serait-ce que par la manière qu'il interroge. Puis, c'est ça, si des films comme j'ai nommé plus tôt, ou le cinéma d'Harold Morris, ça vous allume, je pense que c'est un film à mettre à votre agenda.
Bon.
Wow. Alors voilà. Ça me donne vraiment le goût. J'ai jamais entendu parler de ce film-là, Paul. Merci de ta recommandation.
Ben, il vient tout juste de sortir. Je crois qu'il a joué à Sundance. Mais bon, il n'a pas bénéficié nécessairement d'une grosse sortie en salle comme d'autres films. Là. Parce que cette année, c'est quoi les gros films documentaires? C'est comme Apollo 11, pas mal, qui a beaucoup joué.
Ouais. Science Fair, apparemment, que c'est super bon.
Ouais, c'est vrai. Il n'est pas sorti ici, je crois, encore.
Non, pas encore. Hein.
Puis évidemment, c'est ça, Living Neverland, ça a été le gros truc.
Ah ben oui, ben
mais ouais. Sinon, comme on le disait plus tôt, au-delà des films qu'on écoute, on se tape des grosses séries télé. Et là, le truc, au-delà, bon, maintenant que Game of Thrones est terminé, ce phénomène culturel qui a fini un peu de manière douce à mer, je pense que ça n'a pas été vraiment unanime, la réception de la dernière saison. Mais s'il y a une chose en télé en ce moment qui est unanime, c'est bel et bien la réception de la mini-série Tchernobyl.
Ah, tu dis unanime, hein? Mais attention.
Ben, moi, j'ai entendu que des éloges.
Tu gouvernement...
Ah, mais ok.
C'est peut-être... Tu demanderas aux Russes qu'est-ce qu'ils en pensent.
Bien joué, Pascal. Mais...
Au-delà de Poutine, qui est devenu depuis, pour ce que ça vaut...
Je me demande pourquoi.
La série télé sur IMDb, la plus appréciée de l'histoire, avec la meilleure cote, pour ce que ça vaut. Hein. Donc, c'est une série en 5 épisodes de Craig Mazin.
Mini-série, c'est 5h30 au total, incluant les génériques. Fait que c'est à peu près 5h de 5h et des poussières de contenu audiovisuel.
Et tous les épisodes sont réalisés par Johan Rank. Ça, je trouve ça bien quand une série est réalisée au complet par le même créateur. On dirait que ça lui donne.
Avez-vous vu qui a écrit la série? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, le scénariste?
Non, je connais pas.
Est-ce que vous avez fait vos recherches? Parce que
pas là-dessus, non?
Ben moi, j'ai pas encore vu, donc...
En fait, le scénariste de la série Tchernobyl, il a entre autres écrit Film de peur 4, Film de peur 5...
Il y a quelqu'un qui m'avait tagué parce qu'il m'avait dit justement comme... C'est comme un... Moi, j'avais répondu, c'est comme un reverse Tim Burton. Tu sais, il a fait comme les pires films, puis là, il sort Tchernobyl,
puis... Puis tu sais, il a fait genre Hangover 2, il a fait... Snow White and the Huntsman. Genre, il a fait tous les pires films là, qui sont tous genre rotten as fuck sur Rotten Tomatoes. Puis il y avait un meme qui était sorti, puis c'était tous les posters de ses anciens films. Puis Tchernobyl qui est comme raté à 98-99%. Ça fait aucun sens là, à quel point le gars, il a comme steppé sa game.
Il a gradué, là, c'est bon. Là. Okay.
Ben, tu sais, il y a aussi Identity Thief, là, tu sais, genre le film avec Melissa McCarthy. Tu sais, c'est toutes des affaires de même. Puis au final, ben écoute, il s'en est sorti. Ah, Super Hero Movie aussi, c'était lui.
C'est vrai que c'est un drôle de parcours, tu sais, d'avoir été vraiment beaucoup dans la parodie, la comédie grasse américaine.
Puis tout à coup, Tchernobyl, tu sais, c'est comme...
Peut-être que c'est le projet d'une vie, hein. Peut-être que ça faisait longtemps qu'il voulait le financer. Ce serait intéressant de lire là-dessus, en fait.
Ouais, peut-être qu'il faisait tous les autres films en se disant « Un jour, ils vont comprendre. Un jour, je vais avoir mon budget, là, puis je vais le faire, mon truc, là. » Puis tout à coup, il fait Tchernobyl.
Parce que ça te qualifie tellement pour la job, tu sais. Tout ce qu'il a fait avant, ça l'a tellement qualifié pour la job.
Sens, là, tu sais.
Ben, c'est comme, bon, il faisait des très bons films, là, mais tu sais, comme le saut de Peter Jackson de genre faire Braindead à Lord of the Rings, tu sais, c'était quand même un gros bête, là, tu sais. C'était peut-être moins un.
Il n'y a rien qui laissait présager ça, il n'y a rien qui. Tu sais, c'était pas une équation logique, là, non, c'est ça.
Mais c'était déjà mieux que Scary Movie 4, là, tu sais.
Moi, j'aimerais ça que tout son back catalogue, ils refont des beaux Blu-ray 4K, là, pis là, comme. Du réalisateur de Tchernobyl.
Oui, puis c'est le scénariste, en fait. C'est le scénariste, le créateur de la série.
Mais le box set Criterion Eclipse, là.
Moi, tu réanalyses ces films, puis t'es comme, ah oui, OK. C'est... Finalement, il y avait plus de profondeur que je pensais dans Super Hero Movie. Ben voilà.
Bon, alors...
C'est un fun trivia, là.
Donc, Tchernobyl, mini-série dramatique qui, évidemment, relate un peu les faits qui ont mené à la catastrophe à Tchernobyl en... C'est quelle année,
86. Avril 86. Ouais.
Et donc, moi, je ne l'ai pas vu, donc vendez-moi, les gars. Est-ce que c'est
ben
aussi
là,
acclamé?
Rémi, t'es encore plus à chaud, parce que toi, je pense que tu l'as fini hier.
Là, ouais, c'est ça. Là, on enregistre le matin, puis moi, j'ai... En fait, j'avais regardé le premier avec ma copine, qui est... assez intense, là, le...
Ta copine, ça, ou...
Non, non, mais tu sais, on a comme fini, puis elle était même pas sûre que ça l'a tellement brassé qu'elle était même plus sûre qu'elle voulait comme aller de l'avant, là, comme avec ça, là. C'est... Mm-hmm. Moi, j'ai été crispé tout le long, puis ça m'a shaké. Puis bref, on a regardé un il y a quelques jours, mais hier soir, finalement, on s'est dit, bon, on va continuer. Puis, tu sais, moi, je voulais le voir aussi pour le podcast, pour qu'on en jase un peu. Puis finalement, ben, on a écouté les 4 dernières heures, fait que les 4 épisodes qui restaient. Je me suis couché, je pense, à 2h du matin, puis je vais vous dire que j'ai passé une nuit assez étrange, là. Puis je me suis comme réveillé un matin, puis je me filais un peu weird, là. Ça te met pas dans un très bon mood, mais je pense que c'est assez nécessaire comme série.
Fait qu'il y a pas eu du sexe hier soir.
J'en parlerai pas ici, c'est
on
bon.
On est-tu rendu à sous-écoute aussi?
Oui, c'est ça.
Oh.
Ouais, c'est ça, mais tu sais, la série, en fait, ce qui est le plus clever, d'après moi, c'est qu'elle l'ouvre sur la catastrophe, ce qui fait que c'est pas tout un build-up ultra long comme souvent la télé va nous proposer. Là. Souvent, les séries télé, c'est comme le chemin vers quelque chose qui va nous mener, tu sais, qui va être le moteur, en fait, d'une série. Mais là, ouais. C'est le cataclysme arrive au début, puis après, c'est les conséquences de ça. Il y a quelques façons, bon, on rentre peut-être pas dans ces détails-là, mais quelques façons, ils vont parler de l'avant, de comment ils se sont rendus à ça, mais la série ouvre là-dessus. Donc, le premier épisode est vraiment intense. La série en entier est vraiment intense, mais le premier spécialement, c'est l'inconnu, en fait, puis comme public, on sait vraiment ce que c'est un accident nucléaire, puis on connaît Tchernobyl pour ben, cette catastrophe-là. Ouais, ouais. Fait que tu vois des gens qui savent pas du tout ce qui vient de se passer, des pompiers, des premiers répondants qui vont sur place, puis qui savent pas qu'ils sont en train de se faire... De recevoir une pluie de...
Ouais, des curieux, des gens qui s'en vont voir le feu sur la centrale. T'sais, comme, c'est ça, c'est que le moteur dramatique, surtout du premier épisode, mais de la série au grand complet, c'est le fait que le spectateur comme sait que, je veux dire, la radiation, c'est mal. Donc, l'horreur s'installe. Puis, tu sais, nous, en tant que spectateurs, on est vraiment en mode, ben non, fais pas ça, va pas là. Tu sais, comme on est viscéralement comme en train d'essayer de répondre de l'action des gens qui ne savaient pas, finalement. Tu sais. Donc, ça crée effectivement une angoisse assez forte.
Puis en même temps, c'est facile de dire ça, mais aussi récemment que ce qui s'est passé avec Fukushima, il y a eu le même genre de clivage avec des gens qui refusaient de bouger, avec aussi les poissons du nord du Japon, puis ouais. qui étaient vraiment pleins de radiation, mais que le gouvernement cachait. Puis il y a eu plein de controverses autour genre, de la façon dont ça a été géré et tout ça en 2011. Là, c'est quand même.
Ouais, c'est ça, c'est ultra récent. Ouais, ouais. Puis tu sais, ça, c'était en plus, là, en 86, c'était en pleine Union soviétique. Là, c'est le communisme et on ne veut pas avoir de contact avec l'extérieur, avec les Américains. On ne veut pas d'aide extérieure parce que si on reçoit de l'aide extérieure, ben, on est des faibles, puis après ça, on leur doit quelque chose. T'sais.
C'est ça, c'est
fait
ça.
Que c'est tout de garder ça en vase clos. Mais c'est un accident nucléaire qui pourrait devenir une catastrophe mondiale, mais qui pourrait, qui pourrait décimer un continent au complet. Là,
ça aurait pu rendre une grosse partie de l'Europe inhabitable là, si ça avait été, t'sais, mettons, le pire scénario possible. Puis c'est ça que la série démontre finalement dans ces 5 épisodes-là, c'est qu'on se dit « Ah, OK, bon, ben, la catastrophe arrive quoi à 4 minutes du premier épisode. » On se demande, à la fin de l'épisode 1, on peut un peu se demander ben, comme... qu'est-ce qui va nous garder d'une certaine façon, comme sous nos pieds, tu sais, mettons pour les 4 heures subséquentes. Mais en fait, c'est qu'on se rend compte à quel point ils ont évité finalement que la catastrophe soit encore pire. Puis là, c'est comme de mal en pis, il y a tout le temps des cas de figure, des scénarios catastrophes à éviter de des façons complètement rocambolesques. Fait que finalement, c'est ça le côté un peu thrilling de la série. C'est à quel point la catastrophe, qui est une catastrophe, probablement la pire catastrophe ben, nucléaire que la planète ait jamais vue, mais à quel point ça aurait pu... on a frôlé un désastre, mais d'une ampleur... gargantuesque. Et la thèse globale du projet, c'est que... Ben, parce que la question rhétorique qui est posée tout le long du film, c'est comment est-ce qu'un réacteur nucléaire, que le core d'un réacteur nucléaire explose. Puis là, tout le monde est devant cette espèce d'énigme-là. Puis là, c'est que on déterre finalement que de mensonge en mensonge, de propagande en vase clos du comité central et de la KGB et tout ça, qu'il y a énormément d'informations qui ont été un peu retenu, tu sais, qui a été classifié, là, désolé l'anglicisme, là. Puis, tu sais, fait que finalement, un peu la thèse de tout ça, c'est les mensonges qui fait qu'un corps d'un réacteur nucléaire explose, tu sais. Fait que de ce point de vue-là, c'est effectivement très peu flatteur du régime, tu sais, de l'ex-Union soviétique de la fin des années 80. Puis d'ailleurs, l'événement de Tchernobyl est un des clous dans le cercueil, hein, de l'Union soviétique. C'est comme pour bien des experts, c'est un peu comme... C'est Tchernobyl mène quasiment d'une équation directe à ben, éventuellement la chute du mur puis la dissolution de l'URSS. C'est vraiment la...
ce qui a rendu public que c'était qu'il y avait des mensonges en fait, puis qu'il y avait ben, juste une game de pouvoir, puis tu vas mentir pour monter les grades, mais au profit de avoir une catastrophe comme ça. Là.
C'est ça. Donc, c'est très peu flatteur, comme je disais, de ce régime-là. On pourrait dire, j'imagine, à raison. Bon, je suis pas un grand expert de l'URSS des années 80. Ceci dit, si on parle plus du niveau narratif puis de la série, Paul, Rémi, je vais te laisser peut-être une appréciation globale. Donc, toi, ça t'a... Quand ressors-tu...
C'est parce que tu peux. Il y a toute la dimension politique, il y a toute la dimension humaine, puis il y a aussi que c'est un Christy de bon thriller, là. Ouais, c'est ben un. Puis thriller limite horreur, là, parce que. Mm-hmm. Ben, qui dit catastrophe nucléaire dit des gens qui sont vraiment mal en point, mettons, là.
Ah non, mais c'est graphique, là. Il y a des, là. Y a des peaux. C'est ouais. Ça, la peau toute décrépite par la radiation, les gens, ils sont noirs, là, c'est comme, tu sais, genre, carbonisé, la peau, ah, tu sais, il y a vraiment des coupes de scènes, c'est un peu, c'est très horrifiant, effectivement.
C'est ça, puis ce que tu sais, le niveau de thriller, je veux dire que c'est, t'as une centrale nucléaire avec le cœur qui est, le core qui est complètement ouvert, tu peux pas accéder à ça, il faut que tu trouves un moyen de le fermer, il y a plein d'affaires que tu peut pas faire, il y a des dangers autour, s'il y a un meltdown, mais là ça va compter, tu sais, il y a comme tellement de trucs à prendre en compte, fait que c'est sûr que il y a des gens qu'il faut qu'ils se dirigent sur place, des sacrifices humains pour aller arrêter cette catastrophe là, fait que ces moments là quand je parle de trailer, c'est ça parce que t'es avec des individus qui essayent d'arrêter une centrale nucléaire de fumer des bombes nucléaires dans le ciel, dans le fond, là.
Puis de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que, tu sais, lorsqu'une catastrophe de cette ampleur, il y a malheureusement des gens qui en profitent pour, comme, ben, profiter de la situation.
Ben, oui, peut-être, tu sais, évidemment aussi, je pense qu'il y a tout le jeu de pouvoir de corruption, tu sais, qui est quand même un peu mis de l'avant dans la série. Quoique, hein, c'est pas... non, une fois que... C'est parce que c'est un compte à rebours. Puis c'est parce que ce que la série fait... puis je pèse pas mes mots. Ce qu'elle fait de génial en ce sens, ben déjà, l'invisible devient l'ennemi, là. Tu sais, je veux dire, les personnages sont à côté de la centrale puis t'as comme... Tu le sais que, je veux dire... pour chaque minute qui passe là, ça vient de les écourter de 2 ans d'espérance de vie, tu sais, je dis n'importe quoi, là, des statistiques bidons, mais on se comprend, c'est l'invisible est extrêmement horrifiant, mais une fois que la série, comme elle est mise en branle, effectivement, il y a un rythme qui est très bien soutenu. Moi, j'ai adoré le pacing, parce que on n'est pas dans complètement juste des trucs beatés puis effrénés, sauf que en tant que spectateur, on le vit quand même comme tel. Tu sais, je trouve que le rythme est flawless, en fait, à mon avis, et sans faille. Puis oui, c'est ça, ça découle comme un thriller. Ça découle beaucoup plus des actions portées puis de comment résoudre l'intrigue. Puis les grands héros, finalement, c'est un peu les scientifiques, tu sais, aussi. Donc...
Ben, qui est joué, le scientifique principal, qui est joué par Jared Harris.
Legasov,
ouais. Moi, je me souvenais pas des noms. Merci, Pascal.
Ouais, c'est bon, c'est bon.
Mais Jared Harris, qui joue tout le temps des méchants. Tu sais, comme tu regardes sa filmographie, il a fait tellement d'affaires. Puis c'est un gars que tu connais sa face, mais tu connais pas trop son nom, là.
Ouais,
mais
c'est
il est comme un peu méconnaissant. Mais on dirait qu'il ressemble au gars dans Trailer Park Boy, là. Je sais pas si t'as pensé à ça, là,
ouais.
Mais il est tellement bon. Pis
ou le bad grandpa un peu de Jackass, je trouvais des fois.
Puis t'as Stellan Skarsgård avec, tu sais, qui est tellement un acteur magique. Puis pour vrai, je l'ai même pas reconnu au début, Stellan Skarsgård, même s'il a un visage comme assez, tu sais, qui se remarque, là, mais la façon qu'il était coiffé, de la façon qu'il jouait, il était loin des autres rôles. Habituellement, il est plus... je sais pas, il est plus agressif, plus... ou, tu sais, dans les films de Lars von Trier, il est comme full mellow. Là, il joue un général d'armée, il est comme les cheveux blancs. Je sais pas, j'ai pas tout de suite catché que c'était lui. Fait qu'ils se sont comme fondus dans cet univers-là. Bon, ben, puis c'est sûr qu'en venant à l'acting, qui est magique, faut quand même souligner que, OK, tout le monde parle anglais, là, mais ça, je pense que c'était un deal. Tu sais, je pense qu'il fallait qu'il fasse ce compromis-là parce que... bon, c'est HBO, puis il faut que la série elle se vende, puis qu'elle se promène. C'est pas un truc qui m'a dérangé, je pense que ça a été bien fait, là.
Mais je trouve ça quand même un peu triste. En 2019, là, je trouve ça quand même un peu triste.
Ouais, parce que tu sais, la série, c'est clair qu'il n'y aurait pas eu ce succès-là.
Je sais,
T'sais, on n'aurait pas entendu t'en parler, ouais.
Donc, c'est un appât du gain, je veux dire, la seule justification que je peux en faire. Il y a des gens qui ont essayé de me sortir des justificatifs, là, mais ultimement, moi, j'ai jamais été convaincu. Le seul justificatif du fait que tout le monde parle fucking anglais, c'est pour avoir un reach. C'est un appât du gain, donc là, je veux dire, regarde, ça a-tu fonctionné, on en parle aujourd'hui, tout le monde l'a vu, bon, ok, genre, j'enlève pas que ça a fonctionné, mais...
Ça m'a pas dérangé.
Moi, il y a comme eu un effort conscient. Il a fallu que je l'évacue, là, ça.
Ben, les bouts du déclic, en fait, c'est que tout est écrit en russe, là, partout.
Ben, c'est ça.
Puis, tu sais, il y a même du courtroom drama un peu dans la série, puis c'est... Tu utilises des pièces à conviction en russe pendant qu'ils parlent en anglais.
Je pense
qu'ils l'ont fait de façon clever, mais tu sais, c'est sûr que faut que tu fasses un peu abstraction de ça. Là. Un coup que tu as passé à travers ça, ça va bien.
Ouais, ouais. Parce que ça, c'est quand même un des trucs principaux que le cinéma hollywoodien doit dealer avec depuis le début de l'histoire du cinéma.
Oui, t'sais. Je sais, mais tu sais, dans les années 40,
c'est comme Star Wars. Ça se fait que tous les extraterrestres dans Star Wars parlent en anglais. Je veux dire. Il faut que tu acceptes ça. Là. C'est juste pour comme, que ce soit comme
compréhensible. Parce que l'affaire, c'est que la reconstruction est tellement bien faite, pis c'est tellement sûr, réaliste. C'est tourné ben, pas nécessairement tout le temps en caméra épaule, mais tu sais, il y a beaucoup de scènes de tension en caméra épaule avec les espèces de décors, là, que, genre, je serais vraiment curieux, là, d'aller voir des FX reels, puis des... juste pour voir comment ils ont reconstitué ça, parce que c'est tellement impressionnant, le scale de la production.
Ouais,
pour
une
tu sais, pour une série télé, là, il y a comme 20 ans en télé, je veux dire, on était loin de faire des affaires de même, là, c'est comme...
Ah oui, oui, complètement.
C'est vraiment, on dirait que t'es sur place, là, tu y crois, là, puis de représenter un cœur de cette station nucléaire ouvert. Tu le vois, là, tu plonges dedans, puis c'est fou, là, c'est complètement fou.
J'avais vu, y avait une vidéo qui avait circulé, qui a été retirée maintenant de l'Internet dû à des raisons de copyright, là, de droits d'auteur. Mais il avait fait un peu un genre de comparatif, là, images de la série de HBO versus comme des vraies images d'époque de... Puis la reconstitution plastique, elle est à couper le souffle, tu sais. Bon, j'imagine que c'était probablement un genre de promo reel, là, tu sais. Fait que, tu sais, ils ont mis les trucs que c'est vraiment bien fait. Mais j'ai aussi un peu approfondi ma recherche. Puis ça, c'est une des choses qui est quand même unanimement, même par des gens qui ont un peu des bémols sur certains éléments narratifs, tu sais, ou des libertés qui ont été prises par la série au niveau de la reconstitution d'événements. Bon, mais... la reconstruction, tu sais, comme moi, la salle de la station nucléaire, là, tu sais, on est comme dans du rétro-futurisme soviétique, c'est malade, comment c'est beau, c'est cool, là, tu sais,
on dirait du vieux sci-fi des années 50 avec plein de lumière partout,
tellement, mais c'est super. Puis là, après ça, puis moi, je me demandais même si la note avait été un peu trop poussée, puis comme de fait, j'ai en voyant l'espèce de vidéo comparatif qui n'existe comme plus en ligne, malheureusement, ben, en même temps, c'est l'Internet, là, c'est sûr que ça existe quelque part. Mais bon. Ouais, c'est ça, j'étais abasourdi de voir que c'était tellement près de la vraie affaire. Je trouve ça trop cool. En tout cas, moi, j'ai quand même des petits points. Okay? Quand j'ai fini la série, surtout que, pis ça, c'est pas du tout pour divulgâcher quoi que ce soit, mais tu sais, je pense qu'une série comme ça se doit de finir avec des beaux textes blancs sur fond noir. Hein, t'sais, y a comme plusieurs choses qu'on vit de façon fictionnalisée, mais que... Bref, t'sais, le texte là, à la fin d'une série comme ça ou d'un film... Ouais, ouais. Moi, des fois, j'aime ça, puis des fois, ça gosse. Là, on est vraiment dans la catégorie « j'ai aimé ça », si je peux me permettre.
C'est important. Ça souligne, en fait, des trucs fictifs qu'ils ont fait dans la série.
Ben, c'est ça.
On n'en parlera peut-être pas en détail. Je veux pas comme non plus voler des punchs, mais ils expliquent, en fait, dans les textes, les trucs qu'ils ont fictionnalisé pour servir la série, pour servir la trame narrative. Mais il l'explique, en fait, pour pas laisser le public dans le néant, puis pour pas que... Ouais. Parce que, tu sais, il y a tout le temps, après des affaires de même, il y a tout le temps là, des articles qui sortent là, sur BuzzFeed, de genre, les 10 choses que Tchernobyl a pas faites comme il faut historiquement. Puis là, tu sais, il y a tout le temps des articles de même. Je pense qu'il était conscient qu'il allait avoir du monde qui allait souligner ça. Fait qu'ils ont juste dit, on va juste l'expliquer... Puis pour manquer de respect, en fait, aux gens qui ont réellement vécu la tragédie. Ouais. Fait qu'ils expliquent ce qu'ils ont fictionnalisé, en fait, Puis c'est des trucs nécessaires pour que tu puisses enjoyer une série comme ça, parce que ça, ça peut devenir vraiment lourd, tu sais, ça peut, s'il y a trop de monde, trop de personnages, trop de, c'est trop d'événements, ben à un moment donné, ça devient que tu te perds, puis c'est plus intéressant.
On peut quand même un peu le dire là, en restant vague là, mais c'est beaucoup autour du personnage d'Emily Watson, mais c'est parce que moi je vais vous dire mes trois critiques, parce que je veux dire, tu sais, je l'ai même écrit sur Facebook, sur Messenger, dès que j'ai fini la série. Je pense que tu finis la gueule à terre, puis ces textes-là rehaussent encore plus, je crois, j'allais dire le plaisir qu'on en a eu, mais tu sais, est-ce qu'on parle de plaisir en visionnant Tchernobyl? Oui puis non, là, en tout cas, pour des raisons.
Ouais, évidentes. Moi, je sais, c'est ça.
mais quand même, j'étais subjugué, j'étais wow. Tu sais, je pense que la série termine, puis on est wow. T'sais, c'est sûrement pour ça que IMDb est aussi dopé puis boosté de à 9.6 sur 10 en ce moment. C'est parce que si tu fais juste cliquer 10, quand la série finit, t'as envie de cliquer 10 sur 10 puis de dire wow. Pis genre, ça le réussit extrêmement bien. Après, tu y repenses un peu, puis il y a quand même des micros irritants à mon humble avis. Bon, déjà, effectivement, un peu autour du personnage d'Emily Watson, qui est l'espèce de vengeresse, pas vengeresse, mais comme l'espèce de catalyseur qui sait un peu tout, puis qui pose des questions, puis qui recherche la vérité, puis tu sais...
Mais qui se fait pas écouter parce que c'est une femme, puis qu'elle est pas haute gradée dans...
Ouais, mais en même temps, ça, c'est incohérent, parce qu'elle est invitée dans un meeting du comité central, puis t'es comme impossible que ce personnage-là, comme, ait parole... T'sais, va parler devant Gorbatchev puis genre dire c'est ça qu'il faut faire, genre impossible. T'sais, je veux bien
que c'est... Donc tu crois qu'il y a une espèce de discours un peu trop moderne et genre timing dans l'actualité en ce moment,
ben,
pour féministe?
Oui, beaucoup. Puis tu sais, c'est plate à dire, puis je sais que sinon ça prenait
ça
des femmes
dans
la série.
Place dans
mais
le...
ouais, ça prenait un peu de femmes, parce que tu sais, l'autre personnage féminin est fort, en fait, c'est une civilienne, là, une habitante de Tchernobyl, que son mari c'est un pompier en fait, qui est un des premiers répondants, puis c'est elle qui essaye de retrouver son mari. Puis fait que tu sais, t'as comme les scientifiques d'un côté, mais t'as aussi ce qui touche toute la population de Tchernobyl. C'est l'autre personnage féminin, mais sinon c'est un sausage party là, Tchernobyl.
C'est ça, mais tu sais, je veux dire, mais on est en droit quand même de se poser la question, est-ce que ce revisionnisme-là est bien fait, ou est-ce qu'il est comme, il est tiré par les cheveux? Moi, j'ai trouvé que c'est...
Ou est-ce que c'est opportuniste, justement, pour essayer de se faire traiter de série progressive?
Mais tu sais, mais c'est aussi comme comment les événements évoluent autour de ce personnage-là, puis comment c'est un peu l'espèce d'héroïne battante de l'ombre, là. Je trouve ça plus faible, parce que je trouve qu'il y a tellement d'autres éléments qui jouent beaucoup plus de finesse. Puis c'est ça, il y a trois éléments qui manquaient de finesse, en fait. C'est ça mon mot-clé, mes micro-bémols d'une série qui autrement est comme vraiment magistrale, là, puis je pèse pas mes mots. C'est ça, beaucoup autour du personnage d'Emily Watson, je rentrerai pas trop dans les détails parce qu'effectivement, on pourrait rapidement virer dans le divulgateur. Un peu, là, bon, des victimes innocentes, des enfants cute, là, des gens, tu sais, comme...
Des animaux.
C'est des animaux. Non, mais c'est ça, tu sais, évidemment, il y a un petit peu...
C'est ça la réalité de la chose, là, tu sais, c'est
je
comme...
Je sais, fait que ça aussi, je pouvais encore l'excuser. Mais moi, le seul vrai péché, parce que les deux autres, je m'y explique, puis en plus, le personnage d'Emily Watson est même expliqué par les textes à la fin, comme te dit Rémi, bon, bref... Le plus gros point négatif pour moi reste et restera toute le portrait de la haute dirigeance du régime soviétique. Gorbatchev est un peu dépeint comme un gros balourd. Le KGB, c'est quoi ces personnages-là? Je veux dire, pour vrai, là, avoue Rémi là, que c'est n'importe quoi, là, la représentation des services secrets.
Je dirais pas que c'est n'importe quoi, là, c'est beurré épais, mais en même temps, j'ai l'impression que c'était un peu ça la dimension du régime soviétique, là, c'était tu fermes ta gueule puis tu fais ce que je te dis parce que je suis plus haut placé.
Mais c'est que c'est grossier. Ouais. C'est une propagande Rocky IV, là, je trouve. Il y a un peu de ça.
J'irais pas jusque-là. Ouais. Ouais, le bout où Gorbatchev a dit aux scientifiques « I will break you », là, ça, c'était malade.
Non, mais il dit... Non, mais tu sais, comme comment il parle des dommages collatéraux, puis tu sais...
Mais c'est un peu ça aussi qui ajoute toute la frustration publique de comme... Tu sais, le scientifique, il est pas écouté, puis c'est un trope classique, mais c'est vraiment ça qui s'est passé.
Ben,
c'est,
j'imagine.
C'est vraiment, tu colles que c'est épouvantable ce qui se passe, mais t'as l'URSS qui dit, ben non, c'est pas si épouvantable parce qu'on veut pas que les gens savent qu'on s'est planté à quelque part. Fait qu'ils étouffent la situation. Pis...
Mais l'idée est bonne. L'idée fait du sens. Tout ce que qu'on dit doit être là. Puis effectivement, la thèse globale, j'en reviens à ça, que les mensonges, puis les secrets, puis les gatekeepers ont fait en sorte, tu sais, que ben oui, Chris, puis c'est au dos du peuple, puis c'est au dos des... C'est terrible, tu sais, c'est des mensonges terribles, c'est un régime pourri. Bon, oui, ça peut s'amener à la maison, cette thèse-là, mais c'est pas à coup de petites scénettes esquissées qui rendent pas hommage à la grandeur des moments. Il y a tellement de moments géniaux dans cette série-là, il y a tellement de scènes magnifiques. Hey, ils vulgarisent des... Puis c'est même pas tant la vulgarisation le problème, parce qu'ils le font de façon géniale. Tu sais, à un moment donné, un personnage qui demande à Legasov, genre, explique-moi comment un réacteur nucléaire fonctionne. Et puis là, littéralement dans le film, t'as un 4 minutes d'explication de comment un réacteur nucléaire fonctionne. C'est génial. C'est super bien écrit,
hyper bien vulgarisé. Mais développement de personnage pendant l'explication, c'est
exactement.
Pas juste tout s'arrête. C'est que
exactement.
Les personnages continuent d'avancer, leur dynamique en fait se construit à travers ce moment-là.
Exactement.
Fait que c'est pas juste plaqué dans ta face genre Interstellar, là.
Bon.
On va t'expliquer un trou noir en s'assoyant dans l'espace.
Oui, bon, c'est ça.
Ou tu sais, le fameux héros américain.
Ouais. Oui, oui.
Tu sais, le fameux héros américain qui est dans nos scientifiques, genre « Speak English, I don't understand ».
Mais c'est ça, c'est que je trouvais qu'il y avait tellement, réussi... tellement de gros défis que je trouvais que là, je les trouvais beaucoup plus ballots, puis plus brouillons, puis plus esquissés. Là. Tout le... C'est ça, là. Puis jusqu'à... Tu sais, mettons les trois méchants, là, ben finalement, ceux qui sont ultimement amenés en cours, là, dans la série, là.
Spoiler?
C'est un petit... Ouais, ben ouais, ben spoiler, OK, j'imagine. Là. Mais tu sais, ben pas tant, là. En tout cas, c'est ces personnages-là qui sont un petit peu plus gros. Les traits sont plus gros. Puis je trouvais juste que ça rendait pas hommage à la qualité du reste. Bon, bref.
Dude, souviens-toi que le gars qui a écrit ça, il a écrit Film de peur
ben,
4.
Écoute,
dis-toi que c'est pas si pire.
Non, c'est vraiment pas si pire.
Mais au final, Pascal, deux jours plus tard, t'es allé changer ton rating de 10 à 9.
Ben, honnêtement, moi, je trouve pas que ça vaut nécessairement un 10 sur 10, mais ouais, un gros 9 sur 10 si je veux jouer le jeu du IMDb. Là.
Ouais, moi, tout, j'ai vécu vraiment des émotions fortes avec ça. Puis c'est, tu sais, je sais qu'on n'aura pas full le temps d'en parler, mais j'ai vu un super bon film d'horreur sur Netflix. T'sais, Netflix pond beaucoup d'affaires, hit and miss, mais il y a un film d'horreur vraiment cool qui est sorti qui s'appelle The Perfection. C'est un film avec beaucoup de changements de genre à travers le film. Là, on est comme dans un film d'épidémie, ça devient un revenge movie à un moment donné. Il y a du gore, il y a de la maladie, il y a plein d'affaires, là, c'est super cool. Puis ça m'a... Il y a comme une scène en huis clos dans un bus avec une fille qui est en train de pogner une espèce de maladie dans le film. Puis j'étais comme, je sais pas comment je vais pouvoir trouver de la tension comme ça dans mes prochains trucs que je vais écouter. Finalement, je dirais qu'après j'écoute Tchernobyl, je suis comme fuck the perfection.
Ben ouais. Mais non, c'est ça effectivement là. C'est puis comment qu'il construit l'horreur, puis la mise en scène est vraiment brillante. Je veux quand même peut-être dire, tu sais, mettons qu'on la décortique un peu plus d'un point de vue cinématographique. Juste finir parce que je sais qu'on pourrait épiloguer. Il y a tant à dire. Puis ben, en même temps, c'est bien, hein. Tu sais, comme là, j'en parle, je suis passionné, ça brasse. C'est fun. La mise en scène est vraiment, vraiment, j'allais dire subtile.
Elle est sobre pour la télé, là, en fait.
C'est tight, c'est juste ses têtes. Il y a des décisions de mise en scène. Tu sais, comme, juste le tout début de la série, il y a comme, tu sais, moi, j'aime pas tant les inserts dans la vie, tu sais, coupe à une horloge ou coupe à, genre, je sais pas moi, un tape recorder, tu sais, une machine à des cassettes ou des trucs comme ça.
Ouais.
Puis dès le début, je suis comme, ah, wow, il y a comme vraiment le hors-champ, comment c'est utilisé, les cadrages, les mouvements de caméra. Tu sais, j'étais comme, oh, OK, ouais, on est dans du... Il y a de l'alphabétisme de mise en scène là, dans une série comme ça. Bon, yes, tu sais. Comment l'explosion est divulguée aussi, là, tu sais, comme, je le dirais pas, mais il y a vraiment plusieurs choix à contre-courant. Tu sais, c'est pas juste genre, je vais mettre la caméra là où on pense qu'on va la mettre, puis ça va faire la job, tu sais. Ce que des fois, certains cinéastes font dans des contextes
ben,
un peu
télé,
de
en fait,
machine à saucisse un peu, là. Ouais, c'est ça.
Souvent, c'est ça, on va tourner le plus rapidement possible parce que les budgets sont pas là ou parce que whatever, on sort ça rapidement, mais là, c'est fait avec soin.
C'est good enough, là.
ouais, non, mais c'est ça. Mais là, on est dans de la réflexion de mise en scène qui est une coche au-dessus. Puis la musique est vraiment super, hein, je veux le mentionner, c'est Hildur Gunnadottir, compositeur islandais. Puis tu sais, c'est de la musique arythmique, il n'y a pas de thème
planante,
nécessairement, c'est très drone, c'est très ambiant, tension, tout ça, mais plus, là.
Ça rappelle un peu les alarmes je sais pas, comme étouffé, là. C'est toujours comme si on était tout le temps en état d'alerte, là.
Ouais, mais c'est vraiment bien fait, là. C'est, je pense, une grosse partie du mood, de l'ambiance oppressante de la série passe, oui, par le travail musical de Hildur Gunnadottir, donc. Fait que, ouais, il faut quand même le souligner. Non, il y a plusieurs parties quand on les décortique dans la somme de ces pièces. Tu mentionnais certains comédiens. Oui, le jeu, en général, est très bon. Fait que, tu sais, c'est ça, là, on n'est pas dans de la sous... comment dire? C'est pas du sous-cinéma, là, loin de là. Puis c'est un phénomène, donc, ouais, culturel, ben, qui mérité, parce que la production est vraiment... On est devant un objet qui est assez irréprochable. Là,
hey, moi, j'ai un dernier petit high-five, parce que tu parlais des close-ups, là. Mais la DA, là, la quantité de cendriers qu'il y a dans cette série-là, il y a des close-ups de cendriers, là, il y a tellement de scènes qui se finissent avec des personnages qui éteignent leur cigarette dans un cendrier, mais c'est tout le temps comme des cendriers différents puis tout. Genre, sérieux, le props department devait avoir genre
gâtés,
une cargaison de cendriers différents pour choisir. C'était malade, en tout cas.
Bon, ben... Fait que Chernobyl, des bons cendriers pendant 5 heures, c'est à peu près ce qu'on en retient, je pense.
Non. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu... ça pourrait être un bon complément peut-être à cette série-là, il y a comme un documentaire de Herzog qui est sorti cette année au parc, je pense qu'il est plus à l'affiche, Meeting Gorbachev. Est-ce que vous en avez entendu parler?
J'ai pas vu ça.
Ben, je l'ai pas vu non plus, mais oui, j'ai entendu parler, mais ouais.
Donc, en tout cas, j'imagine qu'il sera disponible, peut-être qu'il est déjà disponible en ligne, en location. Ce serait peut-être une bonne idée, peut-être pour compléter un peu ce visionnement-là.
Ouais.
Donc voilà, Tchernobyl, l'événement. Oui, vas-y.
Non, mais en fait, c'est vrai, je voulais commencer avec ça, mais je vais finir avec ça parce que... excuse-moi, on va finir pour un premier juré, là, mais c'est que j'avais... Tu sais, moi, j'ai une copine qui est assez bouquineuse, là, qui lit beaucoup de romans et de tout et tout ça, et je lui avais fait le cadeau de... C'était la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch qui avait fait elle fait du documentaire littéraire, puis elle avait, donc, dans sa collection qui a gagné le Nobel en 2015, il y avait justement la section Voices of Chernobyl, qui était, elle a, encore une fois, donc, du documentaire littéraire, elle a parlé à énormément de survivants de la tragédie. Puis c'est ça...
C'est pas d'ailleurs ce livre-là qui a inspiré la série?
Ben, en grosse partie, ben c'est ça. Mm-hmm. Puis Dominique, elle m'avait dit, après avoir lu, il y a des années, peut-être en 2016, elle avait lu le Svetlana Alexievitch, elle avait été complètement sur le cul, elle a dit c'est un des meilleurs livres qu'elle a lu de sa vie, bon, elle était super heureuse. Et elle a dit, c'est fou qu'il n'y ait jamais eu rien sur Tchernobyl. Rien, mais tu sais, il n'y a pas eu l'espèce de... Le gros étemple, la grosse affaire qui parle de ça de front. Mm-hmm. Puis vois-tu, c'est une espèce de prophétie de l'époque, ben c'est finalement manifesté avec la série. Puis là, on parle comme encore une fois de phénomène culturel. Donc je pense que il fallait que ça se fasse. Mm-hmm. C'est juste ça que je veux dire. Puis c'était un peu sa conclusion. Puis juste pour dire aussi, Rémi, le personnage de la femme qui suivait son mari pompier, c'était une des... C'était réellement basé sur une des témoins qui est dans le livre de Svetlana Alexievitch aussi. Fait que je voulais juste faire un peu des ponts entre tout cela. Voilà. Alors, Tchernobyl, c'est définitivement à conseiller.
D'ailleurs, il y a plusieurs fans en ce moment qui se plaisent à espérer une saison sur Fukushima.
Oh là là.
Dans la même façon, on va voir si
ouais, c'est ça, la saison 2 de Tchernobyl, là, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer.
Les Instagrammeurs.
Oh my god.
Prochain épisode, ça va probablement être durant Fantasia.
Ah ben oui.
Ouais. Ben justement, on a passé vite, on n'a pas fait les nouvelles aujourd'hui, mais juste vous dire, niveau Fantasia, le programme sort le 27.
Oh yeah.
Le 27 juin. 2019, ça dépend quand vous écoutez cet épisode-là. au niveau de ma programmation, les Fantastic Weekend, on est à 92 courts-métrages, 6 longs-métrages. Puis on a commencé à sortir des courts-métrages qui vont être projetés pendant le festival, comme en exclusivité avant que le programme sorte au complet. Donc, si vous écoutez cet épisode-là assez tôt, ben, vous allez pouvoir aller découvrir ça sur la page des Fantastic Weekend, une page qui est devenue un groupe, en fait, cette année. On s'est
un
dit
groupe
que
Facebook,
c'était...
là.
Ouais, ben tu sais, on avait comme la page Fantasia, la page Fantastic Weekend, puis moi, mon but, c'est un peu comme de faire comprendre au monde que c'est pas un festival dans un festival, mais que c'est une section de Fantasia. Je trouvais ça dommage que les gens pensent que c'est un truc quasiment séparé, là. Fait qu'on a créé plus un groupe associé à Fantasia, où là, en fait, on va inviter les cinéastes, juste les fans de courts-métrages à joindre à cette page-là, puis pour commenter sur la programmation, sur les films qu'ils ont vus, sur... tu sais, ça va plus comme... activer la communauté, alimenter des discussions plutôt que juste sacrer des nouvelles qu'on mettrait anyway sur la page de Fantasia. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, joignez-vous au groupe regardez ça, il y a vraiment du bon stock. Très très fier de la programmation cette année. Ça commence le 11 juillet. Jusqu'au 1er août, donc 3 semaines intensives, 8 programmes de courts-métrages de mon côté, mais comme d'habitude, il y a 120 longs-métrages et 300 courts-métrages au total. Il y en a pour tous les goûts. Mm-hmm. Venez voir ça.
Bon. Ouais, fait que le prochain épisode, on va essayer de le faire peut-être après quelques jours du festival là, pour un peu donner le pouls et nos réflexions sur les premiers films vus. On va se quitter sur la bande-annonce du film très attendu. Midsommar.
Oui! Ah oui!
Ouais. Ari Aster qui nous avait donné Hereditary.
Ouais.
Et qui sort dans très, très peu longtemps.
Ouais.
C'est notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
I told you that I want to go to that festival in Sweden.
Oh, you said it would be cool to go.
Yeah, and then I got the opportunity and I decided
Look,
to do it.
I don't mind you going. I just wish you would have told me. That's all.
Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for, like, a year now.
And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June.
Okay, guys.
That's not her again. Seriously?
Babe, what's happening? Danny.
I was so very sorry to hear about what happened.
I'm sorry.
I invited Danny to come to Sweden.
You know what she's been going through?
Christian says you've got this special week planned.
It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up.
That sounds fun.
Unbelievable.
Welcome and happy midsummer. Skål!
What time is it?
9 p.m.
That can't be right. The sky is blue.
This is what 9 p.m. is like here.
How long have you two been together?
Just over 3.5 years.
4 years.
Really?
Yeah.
What do you think?
It's like another world.
Tomorrow's a big day.
Is it scary?
What is it?
It has special properties.
What am I going through?
We just need to acclimate.
I don't want to acclimate. I want to go.
Absolutely not.
What's happening?
I don't know why you invited us.
That's why you look so guilty right now, because you know.
We only do this every 90 years. I was most excited for you to come.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast.
Oh, t'as pas clapé.
Excusez, je trouve que c'est...
Après 193 épisodes...
193, hein, on a un booper, c'est bon.
Ok, on clappe dans 3, 2, 1... Pour vrai, je pense qu'il faut le garder quand même en ouverture. C'est quand même drôle comme le peu. Ou en scène cachée à la fin du film.
Ouais, je vais le mettre après le trailer. Je vais le mettre après le trailer, pour vrai. Ça va être bon.
La traque cachée.